Daniel Harari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Lectra. Alors, vous avez publié il y a quelques semaines maintenant vos résultats. On va parler de la stratégie, hein, de l'entreprise. Ça a été effectivement pour vous un bon exercice de croissance, dans un environnement, quand même, vous le soulignez, on va parler de vos activités, mais qui reste compliqué.
Oui, absolument. C'est la meilleure année de notre histoire, avec une progression du chiffre d'affaires à deux chiffres, plus de 60% d'augmentation des résultats opérationnels du résultat net. Je pense qu'on peut être satisfait, surtout avec l'environnement qui a été le nôtre cette année.
Quand on parle de votre secteur, hein, logiciel, équipement de CFAO pour donc des industries comme la mode, comme également l'automobile, tissu. Quand on regarde ce qui s'est passé, c'est d'abord la Chine qui pose question. Alors, on voit tous les jours sur les marchés, mais vous, dans votre secteur?
Oui, absolument. On sort de 3 années de croissance très forte en Chine avec plus de 30% de croissance par an. Et cette année, on a fait moins 30% sur nos commandes de nouveaux systèmes. En particulier parce que les industriels chinois sont déstabilisés, ils ont peur du futur. À l'inverse, de façon tout à fait sympathique, on a fait plus 60% aux États-Unis.
Vous aviez constaté sur ce marché chinois qu'il y avait une évolution, hein, de ces fabricants qui montaient en gamme. Est-ce que ça reste le cas quand même?
Oui, et je suis très confiant sur le moyen terme en Chine, parce qu'en fait, les industriels chinois vont devoir évoluer vers une stratégie de croissance moins forte mais plus rentable, donc plus d'automatisation, plus d'Internet, plus de technologie.
Ça veut dire que, effectivement, ce qui s'est passé enfin, en Chine, ou ce qui se passe en Chine aujourd'hui, de toute façon, reste déterminant pour votre marché. Donc, il faut vivre avec cette, je ne sais pas si on peut appeler ça de la volatilité.
Oui, d'ailleurs, la volatilité fait partie de notre environnement quotidien. On n'a pas de visibilité sur le long terme, donc on essaie de la créer. En particulier, on a aujourd'hui près de 60% de notre chiffre d'affaires qui est récurrent. Donc ça assure une très grande stabilité. Le chiffre d'affaires récurrent couvre par sa marge 85% de nos frais généraux, donc on sait qu'on n'est pas dans une mauvaise situation. En gros, vers le 15 février, on a passé le point mort de l'année. Mais le plus important, c'est évidemment que on a des clients qui se posent des questions et donc on ne sait pas quel sera notre niveau de commande trimestre après trimestre. Il faut vivre avec cette incertitude.
Est-ce que vous avez vu donc se passer sur le marché chinois? Est-ce que ça a conduit des acteurs à changer, à eux aussi se délocaliser, à aller sur d'autres zones?
Alors, si on prend le monde de la mode, plus de 50% de la production mondiale de vêtements est faite en Chine. Aujourd'hui, 75% de cette production est pour le marché chinois lui-même. Et il n'y a pas de deuxième Chine. Donc, de toute façon, il ne peut pas y avoir un transfert de cette production en masse vers les pays limitrophes. Par contre, on voit à la marge, notamment pour les produits les moins chers, une production qui augmente au Vietnam, au Cambodge, en Indonésie ou au Bangladesh, mais on est en train de dire que le Vietnam va passer de 4 à 5% de la production mondiale. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va remettre en cause les fondamentaux de la Chine.
Donc ça restera, effectivement, la Chine restera au cœur de ce marché de la mode.
Oui, d'autant plus que dans les pays limitrophes, beaucoup d'entreprises chinoises sont en train d'investir, et donc ça restera les entreprises chinoises avec une filiale qui sera dans ces pays.
Comment ça s'est passé pour vous sur les autres activités sur lesquelles vous êtes, justement, sur les développements aussi que vous avez pu réaliser?
Alors tout d'abord, dans l'automobile, on a sorti en fin d'année une nouvelle machine absolument révolutionnaire pour la découpe d'airbag. Vous savez qu'on a 70% du marché mondial de la découpe d'airbag. Et là, on a franchi une étape qui est fantastique. Ça ne se voit pas évidemment dans nos chiffres puisqu'on a annoncé la machine vers mi-décembre. On a dans le domaine de la mode eu quelques succès significatifs dans le PLM, avec notamment en Italie plusieurs sociétés de luxe qui ont franchi une nouvelle étape avec nous en allant plus loin dans leur système d'information. C'est très encourageant pour la suite.
Quand on regarde l'Europe, le marché européen, justement, dans quel état il se trouve pour vous?
Il y a eu un grand chamboulement parce que les changements de parité entre euros et dollars a créé des riches et des pauvres, des heureux et des malheureux, parce que ceux qui fabriquaient en Asie, par exemple, ont vu leur prix de revient monter tout d'un coup de 20%, mais ceux qui fabriquaient en zone européenne ont vu leur compétitivité augmenter. Donc on se retrouve avec des situations très hétérogènes. Et si on prend deux pays, par exemple, la plupart des Italiens fabriquaient en zone euro, donc ils sont contents, et le marché italien se porte bien. Et si on prend les Français, ils fabriquaient beaucoup en Asie, ils souffrent un peu plus. Donc un grand changement dans l'environnement, en gros, on est devant un changement de paradigme majeur au niveau de tout notre environnement mondial.
Pour vous, il y a toujours ces investissements, vous avez parlé de ces nouveaux produits, ça reste la clé, effectivement, l'innovation dans votre secteur.
C'est notre métier, l'innovation. Mais le débat, c'est de ne pas avoir raison trop tôt ou pas avoir raison trop tard. Parce qu'une innovation n'a de valeur que si elle peut être mise en pratique. Alors évidemment, nous sommes toujours avec plusieurs années d'avance et la vraie difficulté, c'est est-ce que nos clients sont prêts pour adopter ces innovations?
Et là, je dirais, en début d'année 2016, comment vous sentez vos clients? C'est vrai qu'on voit au jour le jour les marchés financiers un petit peu inquiets, même si ça va un petit peu mieux là ces jours-ci. Mais est-ce que vous, du côté des clients, il y a de l'attentisme? Quelle est un peu la vision que vous avez?
Il y avait un attentisme fin 2015, il demeure. Ceci étant, on a un certain nombre de forces, on n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, parce qu'on a une offre qui est vraiment à la pointe de la technologie. On a une présence dans l'automobile qui est renforcée par le développement de nouveaux marchés, notamment sur le cuir, par le renouvellement de notre offre sur l'airbag. On a fait des avancées dans le domaine de la mode. Et puis, on a fait une progression spectaculaire dans l'ameublement, où on a une offre aussi pour découper les meubles en cuir ou en tissu, puis pour créer des meubles de façon générique en 3D, qui a fait des progrès fantastiques. Donc, on se sent très, très fort. On a investi 50 millions pour transformer nos équipes dans le monde entier, renforcer les équipes commerciales, démultiplier les équipes de consultants. Aujourd'hui, on est prêt.
Donc pour vous, même si, comme vous le dites, il n'y a pas une visibilité extraordinaire du côté de, effectivement, des donneurs d'ordre, l'année, donc l'exercice qui est en cours se présente bien?
Alors on a prévu une croissance du chiffre d'affaires entre 6 et 12%, et une croissance du résultat opérationnel entre 8 et 25%. Bon. On pense qu'on se situera évidemment à l'intérieur de ces fourchettes et puis les aléas feront qu'on est au bas ou au haut des fourchettes.
Merci Daniel Harari.
Merci.